Et comme chaque jour sur Europe 1, aussitôt après le flash de 13h, Franck Ferrand nous attend avec de belles histoires plein sa besace. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Elle est un morceau de notre sensibilité commune, une voix rocailleuse et profonde, des lignes fluides tracées sur papier bleu. Cette chevelure crépue qui s'encadre dans une fenêtre du Palais Royal à Paris, les yeux au ciel ou du côté de Saint-Tropez, dans le vieux mât de la Treille Muscate. Madame Colette est notre invitée ce jour et avec elle, cette nature bas-bourguignonne de Saint-Sauveur-en-Puisaye qu'elle a pu observer dès l'enfance. Colette a su voir et donner à voir la chenille velue pareille à un petit ours doré, la première pousse du haricot, le cotylédon qui lève sur sa tête un petit chapeau de terre sèche.
Et pour évoquer Colette, vous avez convié Macha Merrill à
nous
rejoindre.
Oui, entre autres connaisseurs, notre Macha l'aime sa Colette. « J'ai appris en vous lisant le nom des plantes, leurs couleurs et leurs parfums subtils », écrit-elle s'adressant directement à son idole, à son modèle. J'ai, en vous lisant, écouté mon palais et affiné mon toucher, mais surtout j'ai découvert les mouvements du cœur et tous les adjectifs qui les décrivent. Est-ce que Macha va savoir nous faire partager son amour de Colette? Je ne crois pas m'avancer beaucoup en vous répondant « Mais oui, bien sûr !»
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je vous parlais de ce vieux village bourguignon de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Il se trouve dans l'Yonne, aux limites méridionales du département, presque dans la Nièvre. C'est là qu'est née, au creux de l'hiver 1873, la petite Sidonie Gabrielle Colette. La petite dernière des quatre enfants que Sidonie Landois, dite Sido, aura donné au capitaine Colette. C'était un invalide de guerre, le capitaine Colette. Il avait été zouave et avait perdu une jambe à la bataille de Mélégano. On lui avait donc trouvé ce poste de percepteur à Saint-Sauveur. C'est là qu'elle est née, notre Gabrielle, et c'est là surtout qu'elle s'est formée cette personnalité inouïe qui va nous tenir en haleine dans l'heure qui vient maintenant. C'est là qu'elle a forgé son amour contagieux de la nature, nourrie de l'amour inconditionnel d'une mère hors du commun qui la considérait comme son chef-d'œuvre, son joyau tout en or, disait-elle. « Dans ma famille, écrira celle dont le patronyme deviendra nom de scène puis nom de plume, Colette. Dans ma famille, point d'argent, mais des livres. Point de cadeaux, mais de la tendresse. Point de confort, mais la liberté. » Si l'on ne guérit jamais de son enfance, c'est Fargue qui disait ça, on peut dire que Colette n'a jamais été malade de la sienne. Son père est invalide, certes, mais il n'est pas aigri. Pour autant, c'est un méridional plein d'allant, d'une incorrigible gaieté, disait-elle. L'homme se prenait pour un écrivain. D'ailleurs, à sa mort, ses enfants vont retrouver des dizaines de dossiers cartonnés avec des titres superbes, des dossiers pleins à craquer de rames entières de feuillets blancs. De feuillets vierges, disons que ces romans, le capitaine Colette les avait dans la tête. Quant à la mère de Gabrielle Sido, elle est l'exemple même d'un amour maternel intelligent sans limite. Elle fait à sa fille le plus beau des présents qu'on puisse faire sans doute à un enfant. Elle lui apprend à observer ce qui l'entoure, avec amour, avec curiosité, avec une forme de sensualité. Regarde la guêpe qui découpe avec ses mandibules en cisaille une parcelle de viande crue, lui disait-elle. Regarde la couleur du ciel au couchant qui annonce grand vent et tempête. Regarde vite. Le bouton de l'iris noir est en train de s'épanouir. Les finances de la famille, hélas, ne suivent pas cet enthousiasme un peu idyllique. Revers de fortune, il faudra déménager à quelques kilomètres de là, chez Achille, le frère. La commune s'appelle Châtillon-Coligny, un nom plein d'histoire. Et c'est là que la toute jeune fille, elle a 16, à peine 17 ans, c'est là qu'elle va croiser le chemin d'un journaliste de renom, le fils d'un ami de la famille, Henri Gauthier-Villars. Willy, pour ses lecteurs qui connaissent surtout ce nom de plume, parmi une bonne demi-douzaine d'autres noms, parce qu'il signe sous tous les noms, Henri Willy. Il a 14 ans de plus que la belle et jeune bourguignonne, à l'accent rocailleux. C'est en s'occupant de mettre en nourrice un enfant qu'il a eu d'une femme mariée, mariée en l'occurrence à un grand dessinateur, je ne vais pas entrer là-dedans. C'est dans ces circonstances que Willy a rencontré Gabriel. Vous voyez un petit peu le genre de mari, mondain, fils de famille. Sa garçonnière est à Paris, qui a des grands Augustins, juste au-dessus de la maison d'édition familiale. Il est très lancé, disons-le, dans un Paris élégant, celui de la belle époque où Sidonie Gabriel, qu'on n'appelle pas encore Colette, fera bientôt tourner les têtes. Elle fraiera là-dedans comme un poisson dans l'eau. Adieu l'enfance ? Non, non, elle y sera toujours fidèle. Adieu la puisée ? Non, elle y situera l'action des romans de Claudine qui paraîtront d'abord sous la signature de Willy. Toute sa vie, nous dit Macha Merrill. Elle a recherché cette jouissance simple et savante, dégagée de l'argent et du luxe, qui est aujourd'hui le luxe même, la saveur d'une pomme non traitée, un œuf à la coque du jour, d'un pain cuit au feu à bois, d'une soupe de châtaigne ou d'une bécasse aux baies du jardin. La gourmandise est l'héritage de l'enfance.
Et avant votre récit, Franck, vous nous emmenez aujourd'hui sur Europe 1 au pays de Colette en excellente compagnie, celle de Macha Merrill.
Bonjour Macha, merci Bonjour beaucoup Franck. D'être ici. On peut dire que vous avez vécu une grande partie de vos émois avec Colette. Elle fait vraiment partie de votre univers familier.
J'ai eu la chance d'abord de l'interpréter. Oui. C'était une série de télévision d'il y a déjà une vingtaine d'années, mais je considère que c'est la meilleure chose qui ait jamais été faite sur elle.
Vous l'interprétiez à plusieurs âges, d'ailleurs.
Le challenge, c'était pour une comédienne, c'est un moment exceptionnel. Je l'interprétais de 25 à 73 ans, avec surtout les parties âgées. Donc on me maquillait, c'était un très long maquillage qui durait 8 heures. On me mettait une membrane sur le visage et la perruque, tout ça, pour que j'ai l'air... J'avais
Colette
à peu près 40 ans, donc j'étais à mi-chemin entre la Colette de 25 et la Colette de 73. Mais la chose la plus excitante, c'est que nous avons tourné dans son appartement. Au Palais Royal, qui a été repris par un grand décorateur après, Jacques Grange, qui en a fait un appartement privé. On a longtemps pensé faire une fondation et faire un petit musée là, mais c'était un tout petit appartement, bas de plafond. Donc, j'étais chez elle, j'étais elle. Oui. Et j'ai eu ce sentiment incroyable, non seulement qu'elle était là, qu'elle était vivante, mais qu'en plus j'avais une espèce de mission qui était de propager non seulement sa parole, mais quelque chose de son charme, quelque chose de son pouvoir sur les gens et sur les choses.
Et de cette approche sensitive qu'elle avait du monde et des êtres.
Et moi, qui suis une fille d'émigrée, je suis d'origine russe, pour moi, elle incarne la France. Et je sais que dans beaucoup de cœurs, elle est, et à travers la langue, puisque qu'est-ce que c'est qu'un pays ? C'est d'abord sa langue. Et ce français extraordinaire qu'elle a écrit et parlé, parce que même quand elle avait son accent bourguignon, c'était toujours une syntaxe impeccable. Il y a ces longs enregistrements qui ont été faits vers la fin de sa vie, où on entend comme cette belle langue française. C'est la base d'une culture un peu rurale. Je crois qu'on dit encore aujourd'hui que la France est un jardin. C'est ça notre avenir. Et que nous allons être un pays où tous les retraités du monde vont venir se promener. Et peut-être grâce à ces textes de Colette.
Et c'est vrai qu'il y a du jardin dans cette littérature. Colette a passé toute son enfance dans une sorte de jardin d'Éden, qui était le bonheur absolu de cette maison de Saint-Sauveur.
Alors, sa mère.
Il faut savoir qu'elle est disparue, elle est morte en 1954. Mmh. Et dès 1956, a été créée une association pour entretenir sa mémoire et pour faire vivre tout cet extraordinaire patrimoine de Colette. Ce sont les Amis de Colette, dont le président Frédéric Maget est avec nous. Bonjour Frédéric Maget.
Bonjour.
Vous êtes très nombreux, amis de Colette, officiels, déclarés.
Officiellement 500 adhérents à jour de cotisation.
J'ai pas payé ma cotisation.
C'est une façon de
j'ai
vous le rappeler.
J'ai toujours un sur moi.
Ah d'accord, il est très fort.
Où est-elle située cette association ? Quel est son siège ?
Symboliquement, le siège de la Société des Amis de Colette est à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans le village natal. Jusqu'à présent, elle a son siège dans la mairie, mais bientôt, d'ici un an, deux ans, elle aura son siège dans la maison natale de Colette, là où elle a véritablement sa place, puisque vous l'avez dit très justement au départ, le cœur de l'œuvre, le cœur de la vie, c'est cette maison. La source est là.
Elle a été définitivement marquée par cette enfance tellement heureuse, Macha Merrill.
Mais ça, c'est sa mère. Sa mère était une femme exceptionnelle. Elle aurait pu écrire. Et la transmission, avec la nature et aussi les mots, parce que sa mère était une grande lectrice. Elle disait, il faut lire n'importe quoi, même le catalogue du printemps, je sais pas comment s'appelait
les manufactures Saint-Étienne, des choses comme ça. Oui.
Quoi qu'on lise, c'est de toute façon bien. Donc Colette, depuis son enfance, a lu. Et on la voyait souvent comme ça s'échapper dans les arbres avec un bouquin et elle lisait. Et quand elle a rencontré Willy, il a été saisi par la culture littéraire de cette jeune femme. C'était pas seulement elle était ravissante, hein.
Ah oui.
Elle était jolie comme tout.
Je confirme, il y a quelques photos incroyables.
Et puis elle avait un corps très féminin, hein, très très sensuel. Et il a été séduit par la jeune femme, mais aussi par cette curiosité, je dirais, ce talent inné d'écrivain à la Anne Frank. Je veux dire, c'est une femme, on a su dès l'enfance qu'elle serait. Elle a gagné des concours à l'école, elle était la première de sa classe, et tout de suite on a vu qu'elle avait une plume exceptionnelle.
Si vous voulez bien, Macha, je vais faire ce qu'on appelle du teasing, c'est-à-dire, oui, puisque vous nous parlez de ce style, de cette écriture incroyable, eh bien, vous allez nous en lire un extrait dans un instant, juste après la publicité.
En attendant votre récit, Franck, nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 à la figure de Colette, à son style, toujours en compagnie de vos invités, Macha Méril et Frédéric Maget, qui est président des Amis de Colette.
Et ce style dont vous parlez, Julia, nous allons en avoir un exemple grâce à une petite lecture que veut bien nous faire Macha Méril. Alors, on est au tout début, ce sont les premières pages de Claudine à l'école.
Les premières pages publiées. Je ne dis pas que ce sont les premières lignes qu'elle a écrites, parce qu'elle a dû
publier
souvent
sous le nom de son mari au départ, Willy.
Absolument.
Et puis ensuite, Colette Willy. Et puis maintenant, on sait que c'est Colette.
Évidemment. Il lui avait raconté toutes les histoires de son école et de son enfance. Et lui, il lui a dit, mais il faut que tu écrives tout ça, parce qu'elle avait déjà un point de vue. Alors, c'est comme ça. C'est donc les premières pages de Claudine à l'école. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny. J'y suis née en 1884, probablement je n'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny en Frénois, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la Taïse, on y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi, ça ne me dit rien du tout, ces descriptions-là. D'abord, il n'y a pas de Taïse. Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés en dessous du passage à niveau, mais en aucune saison vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre? Non, je ne le vois pas ainsi. C'est un village et pas une ville. Les rues, grâce au ciel, ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents, secs au bout de 2 heures. C'est un village pas très joli même, et que pourtant j'adore.
Magnifique, et que pourtant elle nous fait adorer.
Et qu'on ne peut pas résister, c'est formidable. Comme on adhère à tout ce qu'elle dit. Hein.
Et quelle aisance et quel style, hein. C'est assez extraordinaire, Frédéric Maget.
Ben, il faut déjà dire que c'est le premier ouvrage publié par Colette, que Colette, à l'époque, ne se voulait pas, ne se voyait pas écrivain. Elle est devenue, je dirais, écrivain sans vocation et un peu par accident.
Et pourtant, elle n'écrit pas comme on parle. Hein.
Pas du tout. Il y a déjà là en germe le style de la grande Colette. Et d'abord, ce qui a fait le succès de ce roman, le plus grand succès littéraire de la Belle Époque, c'est ce côté espiègle, ce côté, cette insolence tout de suite, cette indépendance, cette liberté, cette façon dont elle dit, voyez ce qu'on dit de ce village, mais ce village, c'est pas du tout ça. C'est
pas
du
ça. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'elle savait qu'elle serait écrivain. Parce que si elle est restée si longtemps avec Willy, qui l'a torturée, martyrisée, on va en parler, 13 ans, elle est restée avec lui, c'est parce qu'il a été son maître. Il lui a appris à écrire et à se servir de toute cette matière qu'elle avait en elle. Mais je pense qu'elle a beaucoup flirté avec l'idée que c'était barbant d'écrire et qu'elle était contrainte, etc. Mais en réalité, ça a été son identité, sa force et son besoin naturel. Donc elle était un véritable écrivain.
Alors je dirais qu'elle a conquis sa liberté par l'écriture, mais qu'elle est venue à l'écriture par Willy, ça je suis d'accord avec vous. Simplement, elle n'aurait pas écrit si Willy n'avait pas été là.
Est-ce qu'on peut réécrire l'histoire? Est-ce qu'elle aurait été écrivain quand même sans Willy?
Ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a été vraiment et qu'elle l'a été dans un premier temps contre son mari, finalement, puisqu'il a fallu qu'elle acquiert une forme d'indépendance dans cette affaire.
Alors, elle faisait, c'était pour faire bouillir la marmite.
Oui.
Il était toujours fauché parce qu'il dépensait beaucoup d'argent. Il avait une vie, il faut dire, de dandy parisien. Et je crois qu'elle, par solidarité, elle savait que le premier livre avait très très bien marché. Donc, il a encouragé à écrire les suivants. C'était toujours un peu aussi comme ça scandaleux. Elle avait quand même un sens aussi de ce qui allait marcher. Parce qu'elle a été habile quand même dans la gestion de sa carrière et de son talent. Elle savait ce qui allait plaire. Elle n'a pas écrit des choses qui risquaient de faire des bides.
Elle va devenir assez vite journaliste également.
Ah, ça c'est beaucoup plus tard avec Henri Jouvenel. Elle a adoré ça.
Henri Jouvenel était le rédacteur en chef du Matin, donc là on est effectivement
son deuxième mari.
Plus tard,
Et elle a beaucoup aimé ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de pages extraordinaire quand on relit d'abord sa critique de théâtre et puis aussi tous les reportages qu'elle a fait. On sent que c'est un métier qu'elle a pris à bras le corps et elle a découvert des choses.
Et d'où vient cette capacité qu'elle a de nous faire voir les choses, de nous les faire sentir immédiatement?
C'est très l'enfance, vous l'avez dit, mère qui va lui apprendre à observer. Et je crois la grande humilité et l'amour profond que Colette avait de la vie. C'est quelqu'un, Colette, qui ne juge jamais et qui regarde le réel dans ce qu'il peut avoir de plus infime, en posant vraiment le regard, en s'arrêtant sur des choses qui nous paraissent banales, qu'on ne verrait peut-être pas, mais qu'elle va voir, qu'elle va deviner derrière les apparences, sans jamais se préoccuper d'idées générales.
Le miracle de cette existence dans ses débuts, c'est donc une mère très aimante qui lui a donné le goût de la vie, du monde, de la nature, de tout ce
et de l'authenticité.
Mm-hmm. Et puis, un premier mari qui, même s'il ne la rend pas heureuse, va lui ouvrir les portes du tout Paris.
Et puis, attendez,
quand même.
Elle en rêvait, elle, petite provinciale, montée à Paris.
Elle a été immédiatement au
cœur de la vie parisienne, avec le théâtre, les polaires qui a interprété Claudine au théâtre. Elle a tout de suite fréquenté la haute société. Elle était très flattée de ça quand même. Elle était une toute petite provinciale. Elle a un petit peu perdu son accent. Elle essayait, mais il n'y arrivait pas tout à fait. D'ailleurs, elle disait que son accent revenait quand elle était fâchée. Quand tout d'un coup, elle était en colère, ça lui revenait.
Mais c'est ce qui faisait son succès dans les salons parisiens.
Cette
jeune femme qui arrivait, pétillante, aussi espiègle que Claudine. Claudine, c'est elle. Elle le dira non plus tard, mais c'est elle. Elle était dans les salons, vive, avec ses souvenirs d'enfance, d'école, et elle faisait sensation.
Ce que nous allons voir dans un instant, c'est qu'au-delà du grand écrivain, il y a un être assez sulfureux derrière cette Colette. Je vous demanderai bien sûr de réagir à tout ce que nous allons apprendre.
Place effectivement à votre récit, Franck, sur Europe 1, consacré à Colette, la sulfureuse.
« Moi, j'aurais tout fait dans l'existence, a dit Colette, sauf tuer et voler. » C'était le bilan qu'elle tirait de cette existence. Tout vivre, tout connaître, tout tenter, tout essayer. La grande dame du palais royal, avant de devenir cette vénérable idole au chat, la mi-chère de Cocteau, grand officier de la Légion d'honneur, membre d'honneur de l'Institut national des arts et lettres, qui est l'équivalent aux États-Unis de l'Académie française. Elle-même présidente de l'Académie Goncourt et donc grande prêtresse du prix du même nom. Cette grande Colette, comme on l'appelait, l'auteur adulé de l'Étoile Vespère et du Fanal Bleu, n'a pas toujours été aussi sage. Colette a commencé à faire parler d'elle en tant que femme à scandale. Il fut un temps où la préfecture de police interdisait le spectacle de pantomime où elle s'exhibait nue sous une peau de panthère. Ces exhibitions sulfureuses avaient lieu au Moulin Rouge en compagnie de sa tendre amie du moment, la marquise de Babeuf, Missy, sur qui la presse a tiré à boulet rouge, parlant de la décadence de la fille d'un duc transformée en cabotine par un monstrueux amour. D'autres spectacles suivront tout aussi scandaleux, tout aussi dénudés qu'elle va promener à travers la province sous des titres explicites, la chair, l'emprise, le désir, l'amour, la chimère et l'oiseau de nuit. Tout cela retransparaîtra plus tard en 1913 dans des ouvrages intitulés « La vagabonde » et « L'envers du music hall ». Elle est très explicite dans tout cela. Son premier vrai roman paraît en 1920, c'est Chérie, et l'action s'en situe encore dans le demi-monde de l'avant-guerre, le souffre encore et toujours. Son nouveau mari de l'époque, Henri de Jouvenel, donc le rédacteur en chef du Matin, s'impatiente. Mais tu ne peux donc pas écrire un livre qui ne soit d'amour, d'adultère, de collage mi-incestueux, de rupture, lui demande-t-il. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie? Le héros du roman, Chérie, à la beauté trop parfaite, sème la ruine autour de lui, mais avec une sorte d'égoïsme frénétique et monstrueux qui l'élève au rang d'emblème littéraire, la littérature toujours comme sauvegarde et comme transcendance. Henri de Jouvenel s'indignait de Chéri, il n'avait encore rien vu. Nous avons parlé de la liaison de sa femme avec le tout jeune Bertrand. Il a 16-17 ans au moment de leur rencontre. Bertrand de Jouvenel est le fils d'Henri, le fils qu'il a eu de sa première femme. L'adolescent est tombé fou amoureux de sa belle-mère pendant des vacances en Bretagne. Colette ne le décourage pas. Au contraire, elle lui enseigne l'amour. Et Le blé en herbe, qui paraîtra en 1923, s'inspirera de cette passion hors norme. C'est un nouveau succès de scandale. Il y a pourtant tellement plus dans ce livre entre nous que l'immoralité que certains ont tout de suite voulu y dénoncer. Nouveau divorce inévitable en 1924. À l'époque, il faut quand même rappeler qu'on divorce rarement et qu'il est carrément inacceptable de redivorcer. Colette de Jouvenel redevenue Colette tout court n'en a cure. La voilà de nouveau sur les planches, interprétant elle-même la courtisane Léa dans la pièce que Léopold Marchand a tirée de Chéri. Nous sommes maintenant à l'aube des années 30 qui vont voir Colette s'installer au Palais Royal, rue de Beaujolais, où elle sera rejointe par le non moins sulfureux Jean Cocteau. En 1941, il deviendra son voisin et son grand ami. Il était déjà son grand ami. On est encore loin de la grande auteure qui domine son époque et, pour reprendre l'expression de Giraudoux, qui contemple les catastrophes d'une terrasse. Pour le moment, Colette, qui a besoin de gagner sa vie, ouvre un salon de beauté rue de Miroménil. Elle publiera bientôt des souvenirs où elle n'est pas très tendre pour Willy. Nouveau scandale. On peut dire que la paix conjugale, Colette ne la trouvera qu'avec son troisième et dernier mari, Maurice Goudequet, qui est tout de même de 16 ans son cadet. On a l'impression que non seulement elle ne s'interdit rien, que non seulement elle aime voir grande ouverte les portes sur toutes les expériences possibles de la vie, mais qu'il y a en elle une sorte de volonté constante d'aller chercher un peu la société, d'aller sinon épater le bourgeois, du moins de s'imposer dans une liberté qui, à cette époque, était loin d'être la norme.
Le tombeau de Couperin de Ravel sur Europe 1, Franck.
Alors, donc, Colette a épousé ce Maurice qui est le fils d'un diamantaire d'Amsterdam. Il est juif, ce qui va lui valoir bien des misères pendant l'occupation. Il est notamment arrêté par la police allemande, interné à Compiègne. Pour le faire libérer et passer en zone libre, Colette aura recours à l'entremise de Sacha Guitry. À la libération, c'est une autre Colette qui renaît, si je puis dire, de ses cendres. C'est assez étrange ce qui s'est passé là. On va y revenir, bien entendu, avec mes invités. Elle est devenue, pendant ces quelques années, la grande dame des lettres françaises. Et avec une sorte de myopie plus ou moins volontaire, la bonne société d'alors va feindre de ne plus voir en elle que l'évocatrice élégiaque de la belle nature de Basse-Bourgogne et de ces bêtes qu'elle adore. Lorsqu'elle meurt le 3 août 1954, Madame Colette, comme on l'appelle, a droit à des obsèques nationales, même si l'Église, qui a de la mémoire, lui refuse des obsèques religieuses. Le motif invoqué par l'Église, c'est qu'elle est divorcée, tout simplement. À cette époque-là, on badine pas avec ces choses-là. Mais la foule ne boude pas celle que tout le monde a identifiée comme la plus grande femme de lettres depuis George Sand, et c'est une foule incroyable qui va l'accompagner jusqu'au Père Lachaise. Elle avait écrit dans un de ses derniers ouvrages, dans L'Étoile Vespère, elle avait écrit « Mais l'encoursier, tâchez à aller de compagnie, je vois d'ici le bout de la route. » Et parmi, au sein même de cette foule qui accompagnait Colette jusqu'à sa dernière demeure, il y avait une toute petite Macha.
J'avais 10 ans et j'avais absolument voulu y aller. Je venais d'arriver à Paris, moi. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a tout de suite frappé mon imaginaire. J'avais lu La Génie Libertine.
Ah oui,
et La
Génie
Libertine a été pour moi une lecture fondamentale, fondatrice. Et j'aime pas beaucoup quand on dit d'elle qu'elle était sulfureuse. Moi, je pense seulement qu'elle cherchait la vérité. Et elle disait des choses qu'on dit aujourd'hui, qu'on peut dire aujourd'hui, qu'à l'époque on pouvait pas dire. Elle avait tout simplement cette espèce de liberté naturelle. C'était une insoumise, mais c'est pour ça que les féministes l'ont revendiquée comme une égérie, mais elle n'était pas féministe tellement. Moi, je trouve qu'elle a été très sévère avec les femmes.
Elle
a dépeint des portraits de femmes terribles, même assez cruelle, et je pense que dans l'ensemble, elle a préféré les hommes aux femmes. Mais
alors,
son épisode...
amours féminines et masculines.
Alors, il faut voir replacer dans le temps. C'était très à la mode, les amours saphiques. Hein. Au début du siècle, il y avait tous ces cercles, Nathalie Clifford-Barney, qui faisait des spectacles dans des femmes riches qui avaient comme ça envie d'exister pour autre chose que être tout simplement la femme de quelqu'un ou avoir une fortune. Et je crois que ça, c'est une époque qu'il faut... Elle voulait être dans le coup, Colette. Elle voulait suivre son temps. Et donc, dans toutes les périodes de sa vie, on sent ça. Qu'elle est toujours attentive à ce qui est à la crête du temps et de la mode. Mais pas pour y céder. pour être leader, pour être, elle, une femme qui montre le chemin.
Malgré tout, elle a eu des relations avec des femmes.
Oui. Avec Missy, donc,
avec
faut
Missy,
en parler.
Bien avant. Tout,
qui était
avec
Georgie, cette Missy,
c'était une personnalité extraordinaire et profondément émouvante. C'était, vous l'avez rappelé, la quatrième fille du duc de Morny, donc une grande famille. Et elle fait partie
apparentée
de ces excentriques.
À Napoléon III.
À Napoléon III. C'est une de ces excentriques de la Belle Époque. Elle s'habille en homme. Elle se fait appeler par ses domestiques Oncle Max. Elle s'affiche ostensiblement au bras de femme. Et en même temps, c'est une personnalité profondément généreuse, extrêmement mélancolique. Colette lui prêtera cette parole très juste. Elle, dans un de ses ouvrages, elle dira « J'aurais été un fantôme ». Et elle va être pour Colette une planche de salut.
Et juste un mot, parce qu'il faut que j'envoie la publicité. Mais juste un mot, l'autre grand amour, on peut dire, de Colette, c'est quasiment un adolescent. C'est Bertrand de Jouvenel. Elle a presque 50 ans à l'époque.
C'est un peu différent. Moi, je pense que
vous le dites justement. Moi, je pense que c'est le grand amour de Colette. Ouais. Bertrand de Jouvenel est le grand amour de Colette. On a dit parfois qu'elle avait eu une liaison avec lui pour se venger de son second mari. Oui. Je ne crois pas. Je crois que ça a été un amour profond. Il y a une anecdote très juste.
C'est une passion, en tout cas.
Une passion profonde et un amour véritable.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans son pays réel, la Bourgogne, et dans son pays mental, la fantaisie, nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à Colette, Franck.
Et finalement, dans ce qui aura été sa patrie d'élection, c'est-à-dire l'amour sous toutes ses formes, avec toutes sortes de personnes. Elle avait aussi d'ailleurs l'amour de la nature et des animaux. L'amour aura été au cœur de cette existence-là. Nous parlions de Bertrand de Jouvenel, qui donc était son beau-fils. Hein, c'était le fils que son mari Henri de Jouvenel avait eu d'un premier mariage. Il était invité par Jean-Pierre Elkabbach le 1er février 1984 sur Europe 1. Et voilà ce qu'il disait.
J'aimais beaucoup faire les choses qu'il me disait. On s'entendait extrêmement bien. Il faut dire qu'elle a toujours considéré que j'apportais quelque chose différent des personnes qu'elle avait connues. Et puis ça a commencé. Puis ça a duré 5 ans. J'ai resté longtemps avec elle. On a été complètement réunis, n'est-ce pas ? La dernière fois où je l'ai vu, il est venu me chercher. Il est venu me chercher et puis on est resté ensemble jusqu'au matin. Il y avait une vivacité, une vérité chez elle. Une personnalité que l'on ne pouvait pas ne pas admirer.
Bertrand de Jouvenel au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 en 1984.
Que dire de plus, on entend là,
tout est dit, là.
La tendresse infinie de cet homme. Et ce qu'il ne dit pas, là, il ne finit pas l'anecdote, il passe la nuit, il va se fiancer, il passe la nuit ensemble, il part et Colette, du haut de son balcon, lâche un petit bout de papier sur lequel il y a écrit « Je t'aime ». Et il dira lui-même, c'est la première fois qu'elle me le disait.
Oui, parce qu'elle ne disait pas facilement « je t'aime ».
Non.
Quelle a été sa relation avec son dernier mari, avec Maurice ?
Elle l'appelle, je crois que c'est très juste, elle dit, elle a commencé par dire « c'est une peau de satin », ce qui veut dire la sensibilité, mais c'est mon meilleur ami. Devenir, effectivement, c'est une relation amoureuse.
Il avait 16 ans de moins qu'elle.
Voilà, grand admirateur de l'écrivain, d'abord, ensuite amoureux de la femme, et il va devenir son dernier compagnon. Aussi son impresario, c'est lui qui va forger avec elle cette image de la bonne dame du palais royal dont vous avez parlé, qui, je crois, lui a un peu nui dans une première partie de sa postérité, disons, puisqu'on voulait la figer dans une image un petit peu simplette, alors que c'est une femme profondément subversive, vous l'avez rappelé.
Il était aussi son garde-malade, mais il faut penser qu'elle était très célèbre. Et elle a inventé, avec Cocteau, la médiatisation des écrivains. Elle avait compris qu'il fallait absolument être célèbre et que la vie de cette femme soit connue.
Et pendant la guerre, elle le fait libérer. Lui s'en va, il passe en zone libre, il s'en va. Et elle reste à Paris. Elle ne le suit pas, en fait. Oui.
Il y a des pages un petit peu bizarres dans la vie de Colette au moment de l'occupation. Hein. Elle avait d'ailleurs un différend avec Marguerite Moreno, qui était sa grande amie, et qui était elle, qui était partie, qui s'était sauvée dans le Lot, et qui mangeait des patates et des carottes. Et elle, Colette, n'a jamais manqué ni de beurre, ni de faisan qu'elle trouvait sur le palier de sa porte, comme au Cocteau d'ailleurs.
Il faut dire deux choses. D'abord, Colette est de plus en plus immobilisée par l'arthrose, donc il lui est très difficile de quitter Paris. Mm-hmm. Très vite, elle va être dans son lit radeau au Palais Royal.
On parlait de la Défense, si je comprends
voilà.
bien.
Et deuxièmement, elle avait pour son aide des ravitailleuses dans mm-hmm. toute la France, en particulier des petites fermières, qui lui faisaient parvenir des œufs, voilà. de la viande, etc., à un moment où c'était rare. Là où, parce que parfois, on a tendance à noircir le tableau et dire qu'elle ne s'est pas bien comportée. Je crois qu'il faut voir d'abord que, vous l'avez rappelé, Maurice Goudquette a été arrêté. Pour elle, ça a été un vrai drame. Elle a tout fait pour le faire libérer et elle s'est tue. Quand on a publié Collège Journaliste, on a recensé tous les articles qui ont été avec Gérard Bonnal, tous les articles, on a vu qu'il n'y en avait quasiment pas pendant l'occupation. Elle s'est arrêtée de parler. Et symboliquement, le livre qui part en 1944, c'est Gigi. Et Gigi, c'est la Belle Époque. Comme si elle voulait...
Un grand retour en arrière.
Voilà, au moment...
Effacer cette page.
Effacer cette page et revenir à cette période qu'on avait oubliée.
Et puis, il faut dire qu'elle n'était pas très riche. Et c'est compliqué, vous savez, la vie d'un écrivain. D'ailleurs, je voudrais vous lire un petit passage qu'elle dit sur les gens riches.
Non mais lisez, ma chère,
elle dit, l'homme riche, ce n'est pas le dépensier qui change tout le temps d'auto, l'industriel à gros gains. Je m'achemine sans précipitation vers la fin d'une vie à laquelle aura manqué la connaissance de l'homme riche. Mais ce n'est pas la faute de celui-ci, ni la mienne. C'est que nous n'avions, lui et moi, pas grand-chose à nous dire. Et je trouve qu'elle a... Je continue. Le manieur d'or, de blé, de navire, côtoyé, n'a pu mieux faire pour moi que de vouloir me donner à croire qu'il était pareil aux autres hommes, l'un en achetant des livres rares, l'autre en écrivant des pièces et des mémoires. Un troisième aimait la campagne, prenait mes conseils pour planter des kakis, copiait une recette de boisson glacée mi-champagne, mi-bordeaux rouge, un grand branchage de menthe rafraîchissant le tout. Il se mettait à ma portée.
Il se mettait à la portée, ce qui n'était sûrement pas évident. Ça, c'est le style de Colette dans la voix de Macha Merrill. Dans un instant, je vous propose de découvrir la voix de Colette elle-même.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Extrait sur Europe 1 du trio avec piano de Camille Saint-Saëns, Franck.
Alors, ce qu'il faut que nous disions, Julia, c'est que depuis le début de cette émission, à partir de demain, on pourra voir ça sur Internet, donc tout le monde pourra vérifier sur pièce.
C'est de la radio filmée maintenant.
Mais je suis en train de feuilleter un très bel album qu'a signé Macha Merrill avec Philippe Lorrain. Bonjour Philippe Lorrain. Merci de nous rejoindre. Vous êtes cet aquarelliste que connaît bien le public maintenant, puisque vous avez consacré un grand nombre d'ouvrages à toutes sortes de très grands personnages, de Chateaubriand au général de Gaulle et de Victor Hugo à Jean Ferrat. Vous avez travaillé à quatre mains. Macha pour les textes, vous pour ces magnifiques illustrations de ces très belles aquarelles qui représentent une promenade dans la vie de Colette en même temps qu'une promenade dans toute la première partie du XXe siècle finalement.
Tout à fait, mais en définitive, quand Macha m'a fait le plaisir de me demander d'illustrer son texte, pour moi Colette... Ça n'était pas une découverte parce que dans mes 15-16 ans, les Colette et Willy existaient dans ma famille. Donc j'avais déjà lu tous ces textes. Par contre, ça a été une redécouverte, grâce à Macha entre autres, parce que c'est un travail qui a été fait, comme vous l'avez dit, à quatre mains et qui m'a permis de découvrir vraiment les lieux où elle avait habité et ensuite, peu à peu... à travers tous les portraits que j'ai faits, de rebondir toute la société du XXe siècle que j'ai été obligé aussi d'illustrer, des grands auteurs, des grands
écrivains. Ah oui, on les retrouve tous, hein, c'est magnifique.
Je l'ai révélé portraitiste un petit peu avec cet ouvrage, parce que je l'ai vraiment poussé à...
Aller vers le portrait.
Ne pas recopier les photos très connues qu'on a de tous ces personnages, Oscar Wilde, Cocteau, mais de les interpréter. De même que moi, j'interprète la vie de Colette en disant qu'est-ce qui me lie à elle. Lui, il a trouvé avec... Il a une facture de travail et de dessin. Je trouve qu'il va très très bien avec cette époque-là.
Et puis, vous avez inséré des documents, ce que vous ne faites pas d'habitude d'ailleurs. Là, il y a des lettres magnifiques.
Ça a été une grande découverte et une grande idée de Macha et de moi-même. On a inséré, pas beaucoup dans celui-là, mais avec beaucoup de plaisir, des documents de gens très connus. Et notamment des
lettres de musiciens, de Saint-Saëns, de Ravel. C'est des choses, des documents très peu connus.
On retrouve l'écriture de Colette. Là, je vous propose d'entendre sa voix, quelques mots seulement.
Va voir, Minet chérie, le nourrisson de Musette. Je m'en fus à la cuisine, où Musette nourrissait en effet un monstre, à robe cendrée, encore presque aveugle, presque aussi gros qu'elle, un fils de chien de chasse, qui tirait comme un veau sur les tétines délicates d'un rose de fraise dans le poil d'argent, et qui foulait rythmiquement de ses pattes déjà onglées.
Quelle voix et quel roulement d'air. C'est assez étrange ce que je vais dire, Philippe Laurin, mais ces roulements, cette espèce de douce âpreté, si je puis employer l'oxymore, vous les transcrivez-vous dans votre dessin? On a la même sensitivité dans tous ces paysages que vous nous montrez.
C'est possible parce que j'ai beaucoup regardé l'environnement de Colette. Et peut-être qu'en me rendant à Saint-Sauveur, surtout, en allant au lavoir où elle allait chercher l'eau, en allant voir les étangs, en allant voir me promener dans la forêt, c'est un long parcours, je me suis petit à petit imprégné totalement
Et aussi la treille muscate à Saint-Tropez, et la treille muscate et la Roseven en Bretagne.
Vous donnez le sentiment d'avoir vraiment la collection et le livre s'appelle En tête à tête avec Colette, c'est donc édité chez Grunt, et vous donnez le sentiment de l'avoir fréquenté. Vous avez l'impression de l'avoir connu après avoir réalisé ce bel album.
Et vous savez, ça c'est le travail de l'illustrateur. L'illustrateur, en définitive, il fait corps avec le personnage qu'il veut décrire. Moi, j'ai vécu 6 mois avec Colette. C'est le temps qu'il nous a fallu pour mettre au point cet ouvrage.
Mais vous savez, il y a un mystère autour de Colette, parce qu'elle est là. Elle est vivante.
Ah oui.
C'est vraiment un auteur tout à fait à part.
Je pense qu'il y a énormément de nos auditeurs qui diraient la même chose.
Oui. Qui sont célèbres. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y en a quelques-uns qui nous donnent l'impression que elle n'est pas morte, elle est encore avec nous et que ce qu'elle écrit est toujours valable et que nous touche encore. C'est quand même exceptionnel, ça.
Ce qui nous ferait plaisir, Macha, à ce propos, c'est que vous nous lisiez une petite page encore de Colette, de Madame Colette.
Alors je vais vous lire peut-être, comme j'ai commencé avec les premières pages, avec les dernières. C'était dans L'Étoile Vespère qui doit être sa dernière publication. Et elle dit ceci. Il se fait tard, sans que je m'en sois aperçue. Il est l'heure de laquelle on dit couramment qu'elle est longue et triste singulièrement aux personnes âgées et seules. Pourtant, 2 heures, 3 heures, ce sont pour moi des instants, pour peu qu'une relative oisiveté m'y aide. Au travail, le temps se traîne, les quarts d'heure se mâchent durs comme des chanteaux de gros pain qu'on mange sans boire ni saliver. Cet après-midi me fut une douce journée, passée à flâner et à souffrir. Près de moi brille encore dans le bleu du soir la montre à cadran d'or que j'appelle la montre cardiaque parce que suspendue par son anneau à un clou mince comme une épingle, les battements de son cœur l'obligent à osciller légèrement. Elle me mesure ma vie, mais c'est moi qui la secours. Si j'oublie un seul jour de la remonter, la voilà muette et entrée dans la mort. Qui la réparerait? Elle est ancienne. Les ouvriers délicats qui eussent pu la soigner sont morts aussi. Il faut bien que j'accepte de la voir passer un de ces jours à l'état mélancolique d'objet d'art.
C'est quel sublime, cadeau. Ça. Merci beaucoup, Macha Meryl. Merci de nous lire cette sublime prose de Colette. Qu'est-ce qui vous a, vous, Philippe Laurin, le plus marqué dans ce personnage? C'est quel aspect de la femme qui en quelque sorte, a retenu le plus votre talent?
Bien, je crois que c'est la femme qui commence à être une grande maturité. C'est les portraits que j'ai eu le plus de plaisir à faire. Et notamment, on le voit dans l'ouvrage, le dernier portrait, qui a été le plus complexe pour moi. Par contre, les portraits d'enfance étaient beaucoup plus simples. Je pense que Colette atteint pour un illustrateur une grande maturité quand il doit la dessiner dans les 20 dernières années de sa vie.
Et dans ces derniers portraits que j'ai sous les yeux, là, qui sont effectivement très beaux, à l'encre de Chine, sans doute
oui.
Dans ces derniers portraits, il y a quelque chose quasiment de félin dans son visage.
Elle était tout à fait
était amoureuse des chats.
Et puis elle ressemblait à un chat aussi. Ouais, mais je crois qu'on aime les animaux, c'est de l'anthropomorphisme. On est attiré par les animaux qui nous ressemblent, et vice-versa. Les animaux aiment ceux qui leur ressemblent.
Elle disait qu'elle rêvait souvent d'épouser un très grand chat.
Oui, absolument.
Philippe Laurin.
Ce qui m'a guidé dans le dernier portrait que j'ai fait de Colette, c'est une lettre de Jean Cocteau à Goutquet 2 jours après sa mort. Et j'ai essayé de lier.
Très, très belle lettre, que vous reproduisez dans l'album.
Oui, et j'ai essayé de lier le portrait de Cocteau avec le portrait de Colette à travers la reproduction de la lettre de Goutquet.
On dirait que c'est l'histoire de comment on devient un grand écrivain, à travers les personnes qu'on rencontre, à travers l'histoire du pays, à travers les paysages. Et voilà, je dirais que c'est un mode d'emploi pour quiconque voudrait devenir écrivain, de comment on devient.
Je déchiffre les mots de Cocteau, donc il faut être indulgent. Je sais bien que la flamme était toute petite et bleue, qu'il restait peu d'huile, que notre Colette souffrait sans se plaindre, qu'il fallait s'y attendre, etc. Mais les larmes font ce qu'elles veulent et la machine du cœur ne se...
Alors là, nous allons rester sur cette petite frustration.
Je vais essayer de déchiffrer. Je vous donne tout de suite la solution.
Bonjour Elena Morna.
Donc la machine du cœur ne se commande pas. Difficile de faire l'enchaînement sur cette vitamine intellectuelle qu'était effectivement Colette. Nous, on va passer aux vitamines, aux oligo-éléments et aux minéraux qui sont indispensables à notre santé, qu'on ignore parfois et qui pourtant se trouvent dans nos assiettes. Vous avez des questions, vous connaissez le téléphone 39 21 34 centimes d'euro la minute ou europe1.fr.
Merci beaucoup Elena. En tête à tête avec Colette, c'est de Macha Méril et Philippe Lorrain chez Grund. Merci beaucoup. Et puis inscrivez-vous à l'association des amis de Colette. À demain, Julia.
À demain, Franck, sur Europe.